wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute cinéma. Arnaud Laporte.
Autour de moi ce soir, en public au Bel Air, le bar de la maison de la radio, pour une dispute consacrée au cinéma, donc Lucille Como, Charlotte Garçon et Philippe Azoury. À notre affiche, Les Météorites de Romain Laguna, Lourdes de Thierry Demézière et Alban Turley, un coup de cœur de Philippe Azoury pour le livre Gravité sur Billy Wilder d'Emmanuel Burdeau chez Lux. Et nous aurons la joie d'avoir un petit salon de Lucille Como consacré au Festival de Cannes. Nous ouvrons cette dispute avec Les Météorites, premier long métrage de fiction de Romain Laguna, sorti en salle ce mercredi. On va y faire la connaissance de Nina, 16 ans, qui vit dans un village du sud de la France. Elle travaille dans un parc d'attractions consacré aux dinosaures, j'ai très envie d'y aller. Tandis que son meilleur ami, lui, qui est fils de viticulteur, veut s'engager dans l'armée. Il veut quitter cet arrière-pays qui est pour lui sans horizon. Et puis Nina va rencontrer Bilal. Elle va s'enflammer comme cette météorite qu'elle a vue traverser dans l'atmosphère. Avant la bande-annonce, avant la vraie dispute, si je puis dire, un tour de table pour prendre un peu la température de votre sentiment sur ce film, Philippe Azoury.
Très très attachant, même plus que ça.
Charlotte Garçon.
L'esprit du lieu gagne sur le portrait.
On va décrypter cette phrase dans quelques minutes, restez avec nous. Lucille Gomeau.
Alors moi c'est le portrait qui m'intéresse justement parce qu'il excède, je pense, beaucoup de clichés auxquels il s'expose, mais non sans artifice formel.
Oh putain.
Désolée, il y avait des embouteillages.
Je m'en fous. T'es au travail ici. L'heure, c'est l'heure. Ça va être la guerre, c'était. Faut pas que tu recommences. Tiens. T'es dans quel lycée ?
Moi, j'ai arrêté. Ça me plaisait pas du tout. Et toi ?
J'ai la soeur d'un pote qui va ouvrir une boutique à Paris. Paris, les Champs-Élysées. Je trouve refaite.
Je pars en septembre, après les vendanges.
On n'est pas bien ici.
Voilà, t'es sérieuse, Nina. Tu vois pas comment le monde y part en couille ? On peut rester caché dans notre montagne pour faire un truc.
Et ton trafic là, ça marche bien?
Quel trafic?
Non, parce que moi je suis au chômage, on pourrait s'associer.
Je crois qu'on va aller en Colombie, faire des affaires avec Tony Montana.
Allez, c'est bon.
Nina! Viens!
Putain! Ta gueule!
T'es ma boussole, Nina!
Allez, c'est bon.
Météorite de Romain Laguna. J'avoue que j'y tiens plus. Je bouleverse l'ordre de cette émission parce que j'ai envie que Charlotte Garçon nous explique et développe cette phrase mystérieuse. Vous pouvez répéter, du coup.
Non, parce que effectivement, c'est un portrait d'adolescente et je suis d'accord que c'est devenu une sorte de sous-genre du cinéma français, le portrait de jeune fille avec ses clichés, enfin ses archétypes en tout cas, ouais. Et ses passages obligés narratifs, c'est-à-dire un été, l'été de mes 16 ans. Ouais. Je dis mai hein, pour essayer. Ouais. Me projeter moi-même, et peut-être le premier amour, ou en tout cas un amour qui compte, et bon, voilà, une espèce d'horizon professionnel bouché. Bon, on connaît un peu ces scénarios par cœur, et on peut pas dire que le film en diverge complètement, et en même temps, moi, ce qui m'a saisi, c'est la façon dont les lieux sont filmés. Donc on comprend que c'est dans l'Hérault, dans les montagnes dont il est question, c'est-à-dire une montagne pas très haute.
L'arrière-pays bitérois.
Voilà. Ah, très bien.
Contrefort des Cévennes.
Tout à fait. À la fois très découpé.
C'est ma région. Un
et...
peu,
oui,
il faut développer Philippe Azoury aussi. On pourra faire guide touristique.
Et effectivement, cette ouverture qu'on entend dans le film quand elle rate le bus avec ce juron inaugural, ce premier mot de dialogue, est en fait fait sur un pont jaune qui est vraiment jaune, Jacques Demy à Rochefort, les bornes d'incendie dans les Demoiselles de Rochefort. Et donc, cette première étrangeté de mêler comme ça la nature la plus rocailleuse et des signes urbain, je trouvais quand même très très bien tenu dans le film le rapport à ce lieu, ce territoire dont tous les ados autour disent que bon, ils veulent en partir d'une façon ou d'une autre, et en même temps dont on sent bien que il y a un attachement au-delà de, enfin tellement fort pour l'héroïne du film que elle y vient peut-être à y fantasmer des événements cosmiques. Comme si ce bout de terre était le centre du monde, d'une certaine façon. Donc ça, je trouve que c'est l'originalité, disons, de ce film. Et ça passe par, quand même aussi, le travail du décor, de la photographie. Et tout ça étant très bien fait, du son également. Donc l'ensemble et ce soin apporté aux détails sensoriels, voilà, pour moi, dépasse le portrait un petit peu convenu, attendu.
Non, j'attendais la fin de votre phrase. C'était en l'air. Convenu. Attendu. Philippe Azoury.
Ah, c'est sur moi. Non, justement, en soi, pour le coup, je ne l'attendais pas. Passement de plat. Non, je ne l'attendais pas du tout. Les météorites, c'est un film que je n'avais pas vu venir. Je n'ai pas l'impression qu'il ait circulé en festival. La date est un peu ingrate.
Oui, il a été décalé en plus, on l'a vu voilà. Au début il y a assez longtemps. Il était à Saint-Sébastien quand même.
Ah, voilà. En plus j'y étais, donc c'est encore, j'ai honte parce que...
On ne peut pas tout voir, Philippe.
Non, on ne peut pas tout voir, mais j'ai honte parce que le film m'a incroyablement séduit depuis que je l'ai vu mercredi. Je n'arrête pas d'y repenser. Avec évidemment, comme le dit Charlotte, c'est-à-dire au début, cette espèce de chose un peu attendue, encore un film sur l'adolescence l'été. Bien que je trouve qu'il s'en sort très très bien, c'est-à-dire que je crois que Romain Laguna a passé une dizaine de mois à la recherche de, que ce soit Zéa Duprez,
ça, qui incarne Nina,
Bilal Agab qui joue Morad, que je trouve tous les deux assez extraordinaires, enfin, réellement. On est immédiatement amené par eux dans le lieu, justement, dans ce Biterrois que Romain Laguna, je crois, connaît très bien parce que je pense qu'il vient de là aussi. Donc il n'y a pas cette espèce de chose parfois artificielle qu'on peut voir dans le cinéma français où tout à coup, à cause d'une aide venue de telle ou telle région, on se retrouve à filmer des gens qui sont un peu déplacés où rien ne va. Là, tout est complètement ancré à sa place et avec cette... je le trouve très très beau à l'image, comme Charlotte le disait. Un peu de réticence, j'ai l'impression que, mais ça c'est des erreurs de premier film, c'est-à-dire qu'il a, j'ai l'impression qu'il fait beaucoup de scènes avec très très peu de, il s'autorise peu à les laisser durer, comme s'il avait peur que la scène ne prenne pas, comme s'il fallait que ça fasse scénario, ce qui le conforte, ce qui des fois, enfin, donne une sorte de conformisme. Je pense qu'avec 5 ou 6 scènes de moins qu'il aurait fait tenir, il tenait quelque chose d'encore plus puissant. Et surtout, ce que moi je trouve, parce que j'ai lu dans la presse des choses que je ne comprends pas sur le film, et qui tenait pourtant de l'éloge, on dit, c'est un film modeste. Bon, je pense qu'il n'y a aucun film modeste, ça n'existe pas, mais je ne sais pas, enfin, je ne connais pas Romain Laguna, mais il a, j'imagine, dû passer 2 ans et demi à 3 ans à tourner ce film, un film qu'on revient tourner chez soi pour son premier film, c'est tout sauf de la modestie, c'est au contraire, enfin, et c'est un compliment là-dessus, c'est une ambition très très belle. C'est un film modeste, c'est un petit film, c'est un film naturaliste, alors que c'est l'inverse, enfin, la question de Romain Laguna, c'est la question d'actuellement toute une génération de jeunes cinéastes en France ou ailleurs, c'est comment on en sort précisément du naturalisme. Il y a la voie Kechiche, c'est-à-dire on maximalise le naturalisme, la scène elle est étirée, elle fait 40 minutes et on est au-delà, c'était déjà la proposition Piala, et c'est peut-être d'ailleurs cette proposition-là qui manque parfois
chez
Laguna dans les météorites pour pouvoir le tirer. Ou sinon il y a ce que fait Laguna, c'est-à-dire que il donne une première piste presque surnaturelle avec ce passage du météorite au tout début qui est très très belle, vraiment une séquence absolument incroyable. Il nous laisse croire, et c'est très fort, qu'il fait un film naturaliste pendant, je sais pas, 40 minutes. Et puis, Nina, c'est ça, je cherche son prénom, Nina s'émancipe. Et à partir du moment où Nina s'émancipe, là, on rentre dans un territoire qui est ou sensuel, ou mental, ou imaginaire, ou tout simplement, enfin, tectonique, enfin, on va dire, mais qui prend à l'écran. Même si je pense que c'est la partie la plus théorique du film et qu'elle elle demande encore à être affinée en termes de mise en scène. Mais en tout cas, je vois qu'il y a un caractère là. Je sens qu'il y a que chez Romain Laguna, y compris chez ces deux acteurs aussi. Enfin, on a envie de voir ce que ces gens vont nous donner plus tard. Et surtout, on se dit, mais pourquoi ce film n'a pas plus d'appui ailleurs, dans la presse, même dans les sorties? Enfin, ça mérite vraiment, vraiment beaucoup mieux, quoi.
C'est pour ça qu'il est en ouverture de la dispute.
Ben, bien sûr.
Mon cher Philippe. Je suis tellement impatient qu'il sorte, parce qu'on l'a vu il y a longtemps, la sortie a été repoussée. Vraiment, elle arrive maintenant, mais c'est tant mieux. Lucille Como sur ces météorites.
Oui, Philippe, vous parliez de cette question qui obsède le jeune cinéma français, qui est comment on sort du naturalisme. Moi, j'ai eu beaucoup l'impression de voir cette question dans le film. Presque trop théoriquement, c'est ce que vous disiez aussi un petit peu dans la fin de votre intervention, cette espèce de superposition que moi je trouve un petit peu artificielle entre l'ultra-réel et l'étrangeté, entre le naturalisme et cette espèce d'onirisme, en effet, qui passe à la fois par la métaphore de la météorite comme explosion du sentiment amoureux et de la sensualité, les dinosaures aussi, ça alourdit un petit peu la chose. Moi, ça m'a un petit peu gênée. J'ai vu le film une première fois il y a longtemps, et par exemple, cet élément-là, l'élément d'étrangeté, l'élément onirique, je l'avais complètement évacué. Et j'ai gardé uniquement la substance naturaliste qui peut s'assumer comme telle et qui est parfaitement, pour le coup, je trouve, réussie, mise en scène. Si ce n'est, je suis d'accord avec vous qu'il faudrait laisser vivre peut-être plus certaines scènes. Voilà, laisser vivre les personnages. Par exemple, ce personnage, là j'en reviens à ce que vous disiez, Charlotte, il acquiert suffisamment, le personnage de Nina, de dimension mythique et de dimension extra-réelle en affrontant son corps de jeune fille au paysage. Les scènes où elle marche pendant des heures pour rejoindre son amoureux, ou alors elle revient, elle est dans l'orage, elle est trempée, elle est en sueur, elle est morte de soif, tout ça suffit pour en faire une héroïne extra-naturaliste. C'est pas la peine de rajouter, à mon avis, les scènes de météorites, les rêves de dinosaures. Je les trouve extrêmement, artificielles, et je trouve vraiment que c'est dommage. Je dis ça parce que j'aime plutôt le film et que je voudrais qu'il soit un grand film. Je trouve que ça le leste d'un questionnement qu'on repère trop, de la même manière que le format carré, certains tics musicaux, l'utilisation de la musique électronique. Toutes ces choses-là, on les voit trop. Certaines scènes qui ressemblent un peu à des clips, une scène de scooter dans un tunnel. C'est des petites choses, mais c'est des petites choses qui clignotent justement cette question. Comment on sort du cinéma naturaliste? Comment on sort du cinéma naturaliste? Alors que un film comme Scheherazade, auquel j'ai beaucoup pensé en voyant le film, parce que c'est un couple de jeunes acteurs et de personnages auxquels on peut associer le film, était un film qui assumait pleinement la question du réel et qui s'y affrontait justement dans des scènes plus longues, avec une sorte de volonté absolu de s'inscrire dans cette forme-là, et que je trouvais du coup plus audacieux. Là, on regrette qu'il y ait une forme d'artifice qui est très école, quelque chose de très scolaire.
Je ne sais pas l'âge de Romain Laguna, je pense qu'il est plus 86. Jeune que Jean-Bernard Marlin, le réalisateur de Scheherazade. Effectivement, les défauts que j'entends bien, mais qui, pour moi, ne comptent pas tant que ça, sont ceux qu'on fait régulièrement en premier film, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup trop de choses dedans. Mais moi, j'aime bien que ça déborde aussi, j'aime bien que ce soit aussi... Il y a un romantisme totalement assumé, en même temps une forme de panthéisme qui est présent. La façon dont vous l'avez dit, les corps dialoguent avec les espaces, moi je trouve ça extrêmement beau. Il y a vraiment une incandescence, une grâce qui est dû, je le répète encore, à Zéa Dupresse, qui tient vraiment le film d'un bout à l'autre. Et puis il y a des choses qui sont pas plus inattendues, mais qui sont plus finement amenées. Par exemple, pendant très longtemps, il n'y a aucune figure de parent. Et puis je ne m'étais pas forcément rendu compte. Et d'un coup, la mère de Nina arrive, et c'est une mère que j'ai trouvé beaucoup plus originale que toutes les mères que j'ai vues ces 40 dernières années dans
les
le cinéma français.
Les personnages secondaires sont
magnifiques. Elle est formidable, cette mère, Philippe Azoré.
Elle est absolument formidable.
Tout d'un coup,
elle sort de la mère accablée, qu'on nous ressort à chaque fois. Ça n'a rien à voir avec ça.
C'est-à-dire que tout d'un coup, l'adulte, la mère, celle qui représente ce monde-là,
c'est encore une jeune adulte. Enfin, c'est une adulte,
Et du coup, je trouve qu'il nous montre quand même des choses très différentes de ce qu'on a pu voir.
Et en effet, sur les personnages secondaires, c'est extrêmement fin. Il y a deux, vous en avez parlé quand vous avez résumé le film, deux figures, disons fraternelles, même si l'un n'est pas vraiment le frère, mais en tout cas, elle a un frère de son côté, lui a une sœur. Et ces figures-là, elles sont extrêmement bien jouées. Et elles sont très ambiguës. Très elles bien. Sont à la fois adjuvantes, à la fois opposantes à l'histoire d'amour qui est quand même le moteur du scénario. Et ça, c'est très bon signe d'avoir travaillé à ce point à la fois les personnages et le jeu. C'est, de toute façon, moi, je trouve, en termes de direction d'acteur, c'est assez remarquable.
Ouais. Charles Garçon.
Oui, c'est vrai que cette espèce de diffraction des figures parentales dans des l'ami, la copine, qui est au fond très maternante, Jamila, la sœur...
En même temps, un peu perverse.
Oui, oui, mais il y a quelque chose de parental dans son attitude, donc d'ambivalent par rapport à l'émancipation de Nina. Tout ça est très bien fait. Et moi, ça m'a plutôt fait penser au film de Paul Newman, de l'influence des rayons gamma sur le comportement des Marguerites, bizarrement, où justement, on avait un enlisement aussi, qui était plutôt un enlisement... maternelle, enfin sous la coupe d'une mère, et on cherchait à s'évader, et la petite fille, les adolescentes rêvaient aux étoiles aussi, enfin rêvaient aux radiations, au pouvoir de l'atome dans le futur. On était encore dans la queue de comète des années 60 et du jardinage, et finalement il y a un petit peu cette idée là chez le personnage de sortie. Il n'y a pas seulement le film qui rêve de sortir du naturalisme, il y a aussi le personnage qui cherche des sorties qui ressemblent plus à des jeux d'échelle, parce que moi le parc à thème du Dino Space, du dinosaure, où on la voit brosser le menton d'un dinosaure avec un grand balai, c'est presque Jacques Tati. C'est-à-dire que c'est aussi des jeux d'échelle formelle. Et on voit que quand ça réussit, c'est un coup de la mise en scène. Et quand c'est plus faible, c'est le scénario. Et ça pêche quand même, ça dit quelque chose du cinéma français dans ce qu'il doit aux différentes commissions, aux différentes structures d'aide. On force tellement à donner des scénarios qu'après, faut pas se plaindre que les scénarios soient à la fois scolaire,
corsetant.
Voilà, c'est un peu dommage.
Philippe Azoré.
Parfois, effectivement, Charlotte, la version 16 ou 17 du scénario, ou même un passage, parce que je pense qu'au Roman Laguna, en cherchant un peu sur Internet, est passé par la Fémis, qui est quand même aussi une école qui, à un moment donné, crée des choses qui sont prêtes à être livrées presque trop.
Que ce soit Kechiche ou Sherazade, on laisse tourner et il se passe des choses dans le plan, dans la durée, qu'on ne peut pas écrire, on peut les écrire au moment du découpage, mais il faut
qu'elles adviennent,
Quand Lucie ou vous, Charlotte, citiez Sherazade, et moi ça me touche parce que c'est un des films, je trouve, les plus bouleversants des dernières années, le film de Jean-Bernard Marlin, Sherazade. Marlin, c'est presque sa candeur et c'est sa puissance, c'est qu'il a pris comme référent, il a choisi comme référent il y a 15 ans. Et c'est vrai que c'est peut-être ça la sortie, en fait, c'est-à-dire la sortie du naturalisme dans lequel on est. Est-ce qu'on va vers Kechiche ou est-ce qu'on va vers des choses très écrites ou presque à la limite de la science-fiction? La réponse de Marlin, c'était on va vers le lyrisme, c'est-à-dire on va vers Kazan, vers d'un coup Marlon Brando sur un toit avec des pigeons, avec en même temps un scénario social. Et ça a peut-être été son secret, c'était peut-être le secret de Kazan aussi, de pouvoir livrer des histoires d'adolescence, Wild River, des choses comme ça, qui semblent complètement couler naturellement, sans qu'on sente une seule seconde la page du scénar se tourner, ou la séquence 18, séquence 19, on sent le théâtre, et en même temps, il y a quelque chose de naturel. Et c'est peut-être ça le secret vers lequel il faudrait que se tourner aujourd'hui. Moi, je trouve, en tout cas, on dit ça, on a l'impression qu'on est très sévère, mais l'idée, c'est qu'on est devant un premier film qui a une qualité au-delà. Et précisément, il donne envie de parler, on aimerait qu'il soit encore mieux, tellement il est bien.
Allez, dernier mot sur les météorites, Lucie Comeau.
Non, mais surtout, ce qui est très beau, c'est que justement, le personnage finit par excéder tous les défauts potentiels du scénario et son caractère théorique. C'est-à-dire que le portrait d'une jeune femme qui s'émancipe, ça peut être quelque chose, surtout aujourd'hui, d'extrêmement d'engagé, de militant et donc de très corseté. Or, la manière dont elle s'émancipe, qui est en fait une manière de filmer son corps et son corps en action en permanence tendu vers la fin, contrevient, enfin je trouve que ça contrebalance totalement ses défauts un peu scolaires et théoriques du scénario, et ça c'est presque le projet d'origine, on peut l'imaginer, donc c'est beau.
Allez voir les météorites de Romain Laguna, qui est sorti ce mercredi sur les écrans. À suivre dans notre émission ce soir, Lourdes, Gravité et Un petit salon.
France Culture. La dispute. Arne Laporte.
Nous poursuivons cette dispute cinéma. toujours en public au Bel Air le vendredi soir avec Lourdes de Thierry Demézière et Alban Turley. Il s'agit d'un long métrage documentaire qui a pour objet, comme son titre l'indique un peu, d'aller à la rencontre des pèlerins de Lourdes dans toute leur diversité. Là encore, un premier tour de table pour résumer vos impressions sur le film que vous développerez dans un instant. Charlotte Garçon, vous êtes en train de l'écrire ou...
Non, j'écrivais autre chose.
D'accord.
Je vous écoute.
Liste de courses.
Alors, vous m'écoutez.
Oui, je vous écoute, tout à fait. Ah, petite moue, je fais les images en même temps.
Un catalogue d'humanité souffrante.
Je ne suis pas sûr que ce soit très positif. Lucille Comeau.
Alors, moi, disons que c'est un film qui m'a fait grande impression, mais je ne suis pas sûre que ce soit bon signe.
Enfin, Philippe Azoré.
Il faut s'accrocher, mais c'est presque. Enfin, c'est pas. C'est, ça s'adresse moins aux spectateurs, c'est peut-être ça le secret du film. Il faut s'accrocher.
Quand on est à Lourdes, on peut se montrer tel qu'on est vraiment, avec sa grandeur et sa faiblesse.
J'y ai cru au miracle. Mais des miracles, il n'y en a pas beaucoup, hein, quand on regarde bien. Mais il y en a tant et tant de personnes qui demandent quelque chose. On est trop nombreux aussi, c'est ça. C'est comme au loto.
Seigneur, Jean-Baptiste et Patrick vont aller à Lourdes pour demander le miracle pour Augustin.
Donc demain matin, tu te rappelles, on se lève à 6 heures.
Bienvenue Patricia, vous allez bien? La route a pas été trop longue?
Non.
Ici, on regarde à Lourdes, il y a des pauvres, des riches, des moins riches, des handicapés, des aveugles, des boiteux. C'est tout ce qui était auprès de Jésus il y a 2000 ans.
À chaque fois qu'on vient à Lourdes, elle se lave avec l'eau d'ici. C'est pour ça que je prends un bidon à chaque fois.
J'accompagne un groupe un peu particulier. C'est des personnes qui se prostituent à Paris, que tous les ans on emmène en pèlerinage ici. C'est très beau.
On m'a envoyé un truc là, une apparition de la sainte.
La sainte qui a apparu à la grotte. Il y a 300 personnes qui l'ont vue.
Comme on arrive à Lourdes là, on a l'impression que la Vierge Marie elle nous console. Comme une maman console ses enfants.
Quand on a la foi, on dépasse les montagnes.
Lourdes, qui est sorti en salle mercredi dernier, le film de Thierry Demézière et Alban Turley. Alors quand même, pour poser les choses avant le débat critique, on va dire, c'est bien que réaliser un documentaire, ça implique forcément, ou ça offre des partis pris formels différents. Charlotte Garçon, quels sont ceux choisis ici, pour ce film, par les deux réalisateurs?
Alors, il se tient dans un lieu qui est donc Lourdes. Donc ça, c'est le premier parti pris. Il dégage de cette masse, cette foule de gens, un ensemble de personnages. Et le montage tresse, disons, depuis le départ pour Lourdes et les raisons qui mènent différentes familles ou différentes personnes à Lourdes, jusqu'au pèlerinage en lui-même et jusqu'à la fin du pèlerinage et au départ. Donc, on pourrait dire un documentaire choral.
Présence-absence des cinéastes dans le film, parce que c'est aussi un des choix qu'on fait. Selon qu'on est Fred Wiseman ou...
Effectivement, il y a...
Ou, comment s'appelle-t-il votre ami François Ruffin?
Alors, il n'y a pas de présence ni visuelle, ni sonore des cinéastes. Tout passe dans le montage, mais c'est quand même un montage très, très, très marqué, qui en dit beaucoup.
Alors, premier regard, vraiment, pour engager cette dispute. Tiens, Lucille Comeau, pour commencer.
Oui, alors, en fait, Demézière et Turley, c'est des documentaristes qui ont fait beaucoup de films sur des personnes. Moi, je fais un petit détour. Bon, ils ont fait un film sur Benjamin Millepied récemment, dont on avait parlé, je crois, dans la dispute, oui. Une dispute danse, qui était vraiment très à côté, voilà, au niveau du regard de Benjamin Millepied, ex-directeur de l'Opéra de Paris.
Bon. Je pense qu'on voyait toutes les facettes du personnage, alors qu'en
nous,
défendant.
Oui, mais je pense qu'eux étaient dans une grande logique d'admiration et du coup d'empathie. Mm-hmm. Et je pense que c'est à nouveau ce point de vue-là qui est mis en œuvre. Le problème, entre guillemets, mais en tout cas c'est un problème cinématographique pour le documentaire, c'est que là il s'agit d'un lieu. Donc vous parliez de Frédéric Wiseman, on est totalement à l'inverse de ce qu'un Wiseman pourrait faire. C'est-à-dire que là, on ne voit pas Lourdes en institution, on voit Lourdes en effet cœur c'est le cas de le dire, et puis la musique est là pour nous le rappeler, de personnes en souffrance. Bon, moi, le film m'a beaucoup impressionnée. J'en suis sortie quand même assez bouleversée, tout en m'en voulant de ne pas avoir la distance nécessaire. C'est assez étrange. Alors, et je pense que c'est parce que j'ai été quand même extrêmement émue par les personnes.
Par les personnes.
Bon, il faut décrire un petit peu les gens qu'il filme. Il en a choisi. Donc, il filme un homme qui est à peu près cinquantenaire, qui a la maladie de Charcot, donc qui est quasiment entièrement paralysé et qui sait que sa paralysie va augmenter. Il filme une famille avec deux enfants malades. Les deux sont malades, dont le petit va mourir dans les mois qui viennent. Bon, on est quand même extrêmement happé par le destin de ces personnes, qui est quasiment au-delà de la fiction. Pour le coup, c'est tellement incroyable, notamment le cas de cette famille, que ça excède quasiment ce qu'on pourrait raconter. Donc ça m'a beaucoup impressionnée, et en même temps je me suis dit, mais pourquoi ça m'impressionne autant? C'est parce qu'ils ont choisi de m'impressionner. Du coup, ça pose beaucoup de questions sur la douleur, sur ce qu'on fait de la douleur au cinéma, sur ce qu'on fait de la douleur en contexte documentaire. Ça m'intéresse beaucoup ce qu'ils font de la douleur physique. Pour le coup, tous les passages où on voit les corps manipulés par le divers personnel à Lourdes, parce que du coup, il y a plein de moments où il est question de trimballer un fauteuil roulant d'un point A à un point B, comme c'est très montagneux, qu'il y a des marches d'escalier partout, c'est compliqué. Il y a ce passage où on voit les diverses personnes qu'on a vues avant accéder à des sortes de cabines individuelles où chacun va être immergé dans l'eau bénite de Lourdes, qui, à mon avis, est le meilleur passage parce que, pour le coup, il y a un côté un peu systématique. On les voit les uns après les autres être manipulés, être plongés. C'est extrêmement compliqué quand il s'agit de manipuler quelqu'un qui fait 90 kilos et qui est en fauteuil roulant. Tout ça m'intéresse assez d'un point de vue, disons, cinématographique. Après, le parti pris chronologique du début à la fin du pèlerinage, avec cette musique qu'on a entendue dans la bande-annonce, qui est d'un niveau de dolorie assez pénible, c'est un peu compliqué.
Philippe Azoury.
Moi, je les avais connus, Thierry Demézière et Alban Torlé, sur un autre documentaire qui n'était pas sur Benjamin Millepied, mais sur Rocco Siffredi.
Notre genre de danse.
Voilà. Mais qui me plaisait beaucoup comme documentaire, leur Rocco, s'appelait Rocco. Précisément parce qu'il filmait Siffredi, non pas comme un saint, c'est pas un saint Siffredi, mais comme une sorte d'apôtre d'une utopie, en tout cas, ou tout du moins d'une illusion, enfin de Rocco s'illusionnant lui-même comme grand libérateur de la condition sexuelle féminine. Et il l'accompagnait dans toute sa complexité. Je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit sur le documentaire qu'ils font sur Benjamin Millepied aussi. Mmh. Il y a à la fois beaucoup d'empathie dans leur regard, de Thierry Demézière et Alban Torlé, mais il y a aussi beaucoup de questions. Ils ne sont jamais très sûrs. Ils décident de tenir la main de celui qu'ils vont filmer, de se laisser accompagner, mais ils ne sont pas complètement dupes non plus. Ils ne sont pas totalement totalement dans l'admiration. Il y a la volonté. C'est peut-être, alors j'y arrive, c'est peut-être ce qui, dans Lourdes, m'a un peu manqué. Alors évidemment, le documentaire aurait pu être autrement, c'est-à-dire ça aurait pu être lourd de la ville et aussi ce que ça veut dire économiquement, l'église derrière, la foi à l'église, qui sont deux choses qui sont complètement différentes et distinctes. On peut croire dans le fait d'avoir une foi, et globalement tous les cinéphiles, pour passer leur journée devant des images pieuses, la tête levée, ont en foi un truc, ils savent pas quoi. L'église, c'est encore un autre problème. Le film cherche ailleurs, je disais il faut s'accrocher, c'est-à-dire il cherche justement à traquer cette idée de à quoi on s'accroche quand effectivement les vies qui sont exposées sur les 30 premières minutes, moi aussi j'étais comme vous, Lucille, on se dit mais quelle chance j'ai déjà d'être là, debout, ça peut me tomber dessus, et on est dévasté, à moins d'être totalement inhumain. Et puis on devient aussi très très vite spectateur paranoïaque, c'est-à-dire à cette idée-là de comment on tient, à quoi on s'accroche, arrive une mise en scène. Moi, je pense qu'ils sont allés beaucoup trop loin sur la musique, mais je vois pourquoi. C'est-à-dire qu'ils cherchent une réponse à cette espèce de foi absolue, de croyance totale ou d'illusion, qui serait l'élévation, qui est les 20 dernières minutes du film, qui sont quasiment, de l'ordre clipette. C'est-à-dire, on sort de son corps, c'est-à-dire, on abandonne parce que il y a un moment, on est entre Goya et Todd Browning dans tout le film. C'est-à-dire, on est sur des successions de corps qui sont des corps dévastés, amochés, cassés. Et on sort de son corps, on sent quelque chose, l'existence hors de son corps s'élever, se débarrasser de la douleur pour aller là. Ça passe par effectivement une grande violence. Je me comprends, mais théoriquement, il y a une grande violence par rapport à ce qu'est le documentaire et le recul. Il faut l'accepter ou pas.
Charlotte Garçon.
Voilà, moi, je serais vraiment beaucoup plus sévère parce que le film m'a laissé dans un état, enfin, quasiment de colère. C'est exagéré, mais en tout cas, j'ai vraiment rejeté. Enfin, pour plusieurs raisons, mais il y a beaucoup de choses. C'est un film qui est d'une grande efficacité, d'une grande maîtrise, notamment visuelle. Voilà, les parties prises de musique aussi sont affirmées et répétées. Donc, et puis ce choix choral, il choisit des personnages, il s'y tient. Il y a eu une longue enquête pour trouver ces personnes et les extraire de la foule. Donc c'est pas la maîtrise qui est à critiquer. Il y a aucune maladresse. En revanche, plusieurs problèmes pour moi. D'abord le double régime d'image auquel il nous soumet, qui est le plan rapproché. Moi, j'estime que c'est un plan trop rapproché. Donc rapproché des mains, rapproché des visages tordus, des trônes. Des visages souffrants, tordus par la maladie, la paralysie, et rapprochés des corps, voilà, des corps souffrants, des corps mourants quasiment, ou bien obèses, ou bien etc. Et puis l'autre régime qui est plus clairsemé, parsemé dans le film, ce sont des plans de très grand ensemble où là on voit la masse, on voit ce que c'est qu'une messe en extérieur, à Lourdes, on voit les monuments, la monumentalité de la chose. Et là, excusez-moi, la Leni Riefenstahlisation, si vous voulez, du documentaire nous prend aussi. Donc c'est aussi très efficace, cette espèce d'alternance entre du trop près et du trop loin. Sauf que en temps normal, on aurait dans la durée d'une séquence la possibilité de recouper ces différentes distances nous-mêmes. Et il me semble que tout est manipulé, enfin tout est fait pour nous au montage, dans cette mise en tension entre le trop proche, l'empathie extrême, oui, tout le monde va mourir, nous aussi, ça pourrait vous arriver, c'est horrible, et là toute petite, peut-être, suggestion que tout ça est quand même un rouleau compresseur touristique massif, voilà, et voire religion opium du peuple, enfin voilà, on a le droit de penser ce qu'on veut, mais eux, peut-être par respect, par pudeur, et parce qu'ils ont extrait ces personnages qui souffrent de fait, ne peuvent plus du tout avoir de regard critique par rapport à ce qui est organisé là, dans cette ville. Donc, oui. Quand vous dites que la foi et l'Église c'est pas la même chose, bah, dans le film c'est exactement la même chose.
Précisément, parce que c'est pas leur sujet en fait. Et c'est ça. C'est le, tout, non mais je les défends. Alors, pas là-dessus. C'est pas leur sujet. Leur sujet c'est de chercher l'espèce
d'élévation. L'élévation. Non, moi je suis pas sûr. Moi je pense que leur sujet tient dans ce qu'a dit la petite bergère Bernadette Soubirous quand elle a vu la Vierge, qui est d'ailleurs citée dans le film, qui est la Vierge m'a regardé comme une personne. Et on a l'impression qu'ils se font mission de regarder des gens qui sont souvent des gens pauvres, qui sont souvent des gens défavorisés et qui viennent avec leurs dernières économies, ou même quand ce sont des bénévoles, ils payent leur propre voyage pour aller torcher, excusez-moi, les personnes qui ne peuvent pas se faire la toilette eux-mêmes. Et donc, ce serait l'idée que le documentariste va les regarder comme des personnes. Mais ce sont déjà des personnes. Donc, c'est ça le problème.
Moi, je suis d'accord avec Charles Garçon. Je me permets d'intervenir. Parce que ce film m'a profondément énervé aussi. Oui. Parce que je pense qu'ils ont fait, ils sont tombés dans tous les travers et que n'importe qui, bien ou mal intentionné, aurait pu réaliser le même film que ce qu'ont réalisé Alban Törley et j'oublie son nom, Thierry Demézière. Il se trouve que il y a 25 ans de ça, au moins, j'ai fait des émissions à Lourdes pour France Culture, et la seule chose qui m'a intéressé, c'est que la ville est absolument hors du temps, c'est-à-dire que je pense que c'est la même qu'il y a 20 ans, 50 ans, 70 ans, enfin depuis que Bernadette a vu la Vierge. C'est tellement facile d'aller chercher les personnes qui vont provoquer ce traumatisme que vous avez vécu pour la première demi-heure de la projection, cette douleur-là. Et je trouve que c'est vraiment pas malhonnête, mais je trouve que c'est quand même extrêmement douteux de réaliser un film comme ça. Bah oui, mais alors ils sont gênés de quoi ?
Le premier pèlerinage à Lourdes, et c'est Lourdes est encore tenu par les militaires. Et on le voit un tout petit peu, mais finalement, qui est-ce qu'on voit ? On voit surtout le papa de ces deux petits garçons adorables qui est lui-même militaire, et on le voit défiler. Donc il y a aucune.
Je trouve qu'ils font tout ce qu'il faut, de, tout ce qu'il faudrait jamais faire.
Ils filment, il filme avec le respect que peuvent avoir des athées.
Non, mais si on a du respect, on les filme pas ces gens-là comme ça. Je suis désolé.
Écoutez-moi.
Non.
Qui filme un rituel, qui filme une institution, qui ne maîtrise pas, et donc du coup, pour qui ils ont une forme de bienveillance a priori. C'est la même chose, la forme chorale.
Moi, je pense que la forme, ils cherchent une épiphanie de scène. Donc une fois que la vignette a été donnée, que le mot est sorti, et ça je parle de la fin qui est quand même à la limite de l'obscène, que l'épiphanie de cinéma a été donnée, on peut couper.
D'expliquer le geste, le regard. Je pense vraiment que c'est ce type de regard-là. C'est un regard qui se veut humaniste, entre guillemets, contre la foi qu'ils n'ont pas, je pense, et qui du coup leur permet totalement étrange.
Moi,
le vrai problème pour moi, c'est la question justement du choral, enfin du cœur, c'est-à-dire qu'ils mettent sur le même niveau donc ce père avec ses deux enfants et par exemple ce prostitué qu'on voit quand même à plusieurs reprises, qui lui vient parce que son péché est, je le cite, de vouloir être une femme et sans jamais interroger la hiérarchie entre guillemets des raisons.
Ils ont un sérieux problème.
Je suis d'accord avec vous. Moi, je trouve que le film a plein de problèmes. Ah oui. J'essaie juste d'expliquer le point de vue. Je pense qu'il est réfléchi, ce point de vue. Après, en effet, le film est problématique à plein d'égards.
Philippe Azoury, très rapidement.
Très rapidement, j'ai un problème sur une scène qui n'a pas été expliquée là. Donc, j'en profite pour rajouter mon problème à moi. Parce que moi aussi, j'ai mon problème.
Allons-y.
J'ai un problème sur une scène qui est justement une des scènes confession de ce travesti du Bois de Boulogne qui vient. Il est filmé, donc il est regardé, et en voix off, on entend sa prière. Et là, moi, il y a quelque chose où je...
C'est pas possible.
Lequel, de l'extérieur, intérieur, dans lequel je ne peux pas.
Il n'y a que des choses pas possibles dans ce film, Charlotte Garçon.
En tout cas, il y a plusieurs films dans ce film, et notamment, dommage, il y aurait eu un beau documentaire, à mon avis, sur les gitans à Lourdes. Et ça aurait suffi, plutôt que de les réduire à une chanson.
D'ailleurs, c'est totalement extérieur. C'est assez étrange, la manière dont ça débarque dans ce film.
Mais ça, c'est l'esthétique de la vignette. Et donc, tout le montage consiste à ventiler des pseudo-épiphanies. Donc, c'est dommage.
Bon. Si vous voulez pour avoir des ventilations, allez voir Lourdes. Hein. Thierry Demézières et Alban Turley qui est sorti dans les salles mercredi. Tiens, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Billy Wilder. Non, je blague, hein, on en parle quand même à peu près une semaine sur trois, j'imagine. C'est votre coup de cœur, Philippe Azoury, pour celui d'Emmanuel Burdeau, qui s'appelle Gravité, sur Billy Wilder.
Gravité sur Billy Wilder, donc d'Emmanuel Burdeau, chez Lux, nouvelle maison d'édition. Voilà, c'est déjà bien.
C'est vrai.
Avec un postulat, enfin un titre, mais qui lui sert de postulat, qui est enfin... On peut se demander quel est votre Billy Wilder préféré. Charlotte Garçon, quel est votre Billy Wilder
non,
préféré?
Non, mais là, on n'a pas le temps.
Il se remet de... Est-ce que vous êtes plutôt Sunset Boulevard, Assurance sur la mort? C'est un Billy Wilder un peu sombre. Ou est-ce que vous êtes plus Certains l'aiment chaud, C'est temps de réflexion, le Billy Wilder de très très grande comédie, le Billy Wilder de l'exemple même de ce qu'a été la comédie américaine?
Oui, il faut qu'il y ait du sexe.
Ah, ben voilà.
On a la réponse. Hein,
c'est la meilleure réponse, Eva. C'est la meilleure réponse, en tout cas, ce qui soit. Le livre d'Emmanuel Burdeau, prend postulat de les interroger ensemble, de ne pas les séparer. Que la gravité, effectivement, c'est pas le premier mot qui vient à l'esprit lorsqu'on pense à Wilder. On pense à une immense rythmique. On pense parfois même à un cynisme. Que Emmanuel Burdeau met plutôt du côté de l'amertume. Burdeau pense plutôt pour gravité, c'est-à-dire même lourdeur. En le prenant, et c'est un livre, ce qui en fait un livre très intéressant, je sais pas si on a rappelé, parce qu'on parle entre nous comme si Emmanuel Burdeau était absolument... Nous, on le connaît tous. Mais Emmanuel Burdeau a été rédacteur en chef des Cahiers du cinéma. Ça a été une très, très grande plume des Cahiers. Il est aujourd'hui à Mediapart.
Il a été critique à la dispute.
Mais c'est vrai que il a fait un très très grand bouquin sur Minelli il y a quelques années. Il prépare aujourd'hui depuis de très très longues années. Et le livre sur Billy Wilder est venu se greffer là-dessus, un livre sur Serge Danet. Et c'est là où il m'intéresse. C'est-à-dire que là, on sent qu'il y a, il le dit d'ailleurs, il l'avoue, dans ce livre sur Billy Wilder, il y a en creux un bouquin sur Lubitsch. qu'il avait, que Burdeau avait en projet qu'il a laissé tomber. Et c'est presque très intéressant parce qu'il a davantage d'admiration pour Lubitsch, qu'il trouve justement, non pas lourd, mais léger, qu'il trouve que c'est quelqu'un qui est dans la soustraction et non pas dans l'addition, alors que le Billy Wilder à la fois l'intéresse par tout ce qui peut être de l'ordre du défaut ou de l'imperfection. C'est l'imperfection de Wilder qu'il prend à bras le corps. Il le fait de façon Burdeau, c'est-à-dire chaque film a été revu, a été complètement habité, recensé. Il y a énormément de... sur un film que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu, qui s'appelle Ace in the Hole, qui est le gouffre chimère, qui est un film avec Kirk Douglas de 1951, qui devient presque... qui est une satire du journalisme, avec un personnage qui s'appelle Charles Tatum, qui est un film qui sert d'exemple quasiment à chacune des positions théoriques d'Emmanuel Burdeau, alors que c'est un film qu'on a envie de voir, alors qu'il est réputé pour être un film mal aimé par la critique, mal aimé par le public, et être le film préféré de Wilder. Mais surtout, pourquoi ça intéresse à ce point Wilder Burdeau, alors qu'il est en train de travailler sur un livre sur Serge Danet, c'est que c'est à un certain endroit, la façon dont Wilder utilise le poids mort pour arriver au mouvement. C'est un cinéaste de la transition entre ce qu'a été le grand âge d'or d'Hollywood et ce qu'est sa défaite. Et c'est là-dessus que c'est quelqu'un qui a finalement porté en lui à la fois au plus haut l'efficacité, le triomphe de l'écriture cinématographique, et en même temps ce qui va être d'abord la citation cinématographique, le cinéma se cite en lui-même, et finalement ce que Burdeau appelle l'amertume, et l'amertume l'amènera vers déjà finalement les derniers Wilder sont des films qui portent en eux la mort du cinéma. On voit qu'en fait un livre sur Billy Wilder peut être une introduction à une biographie intellectuelle qui sortira, j'espère, l'année prochaine, ou peut-être même avant, ou un petit peu après, sur Serge Danet, par Emmanuel Burdeau, lui aussi.
Pour l'heure, on lit Gravité, ouais. Sur Billy Wilder, c'est paru chez Luxe. On va dire après quoi, qu'un week-end Billy Wilder
au Café des Images, ce week-end, 11 et 12, avec Pierre Salvadori et Emmanuel Burdeau en tandem.
Bon, et puis un week-end Imagine France Culture, hein, comme on a trop de temps pour le petit salon, avec le jeu, la nouvelle émission, l'épingle du jeu, Odile Conseil, 20h-22h, demain soir et dimanche soir, en public au Centre Pompidou, il faut réserver sur maisondelaradio.fr. Et c'est l'heure du petit salon, on est rentré, on a entendu la musique, la sonnette. Lucille Como, pas de lancement écrit, ce qui fait que je peux vous dire que enfin, je vais comprendre le sujet de votre petit salon en l'écoutant.
Tout à fait, en plus on va parler de l'émission d'hier.
J'étais
puisque...
pas.
Ah bah si, vous y étiez, on parlait du livre de Brad Easton Ellis, je vous le rappelle, qui s'appelle White. Et dans lequel Brad Easton Ellis dénonce avec assez violence la tyrannie des victimes, cette vague de résistance qui s'est révélée après l'élection de Trump, mais aussi, on le devine, après la vague MeToo, et qui selon lui aboutit à une forme de fascisme. Et il est intéressant que le premier exemple qu'il donne de ce phénomène pour l'illustrer soit le succès de Moonlight, film de Barry Jenkins, l'histoire d'un jeune homme qui cumule les discriminations noires, pauvres, homosexuels. Brett Easton Ellis y voit le signe que le cinéma répond désormais à des questions morales et identitaires et regrette que les Oscars les célébraient plutôt que La La Land qui recueillait ses suffrages. Dans les cahiers du cinéma, datant de mars dernier, un article de Stéphane Delorme posait peu ou prou cette question, celle du piège de l'identité, je le cite. Cette inquiétante propension, selon l'auteur, du cinéma américain à devenir un cinéma autorisé, bridé par le souci des différentes communautés, celle par exemple de trouver des acteurs suffisamment noirs pour jouer des personnages afro-américains ou d'être suffisamment gay pour filmer des scènes de sexe homosexuel, le tout dans une logique économique de rentabilité et de ciblage des publics. Cette question, on se la pose, je crois, surtout en période de festival. Les festivals de cinéma aux États-Unis sont devenus de grands messes anti-Trump, où chacun y va de sa petite blague ou de son discours lénifiant sur le vivre ensemble, et surtout où les films sélectionnés et récompensés sont à l'avenant. En France, il semble qu'on ne soit pas tout à fait à l'abri de cette tyrannie des identités, ou en tout cas de la toute-puissance du film concerné. Muriel Joudet, par exemple, hein, qui n'est pas là, mais qui aime beaucoup ce sujet, à cette même table il y a quelques mois, s'agaçait de constater que le film ayant remporté le plus de récompenses au dernier César jusqu'à la garde était avant tout un sujet, en l'occurrence celui de la violence faite aux femmes, et beaucoup moins un film. Alors le festival de Cannes paraît presque vieux jeu de ce point de vue. Les cinéastes qui concourront à la Palme la semaine prochaine sont pour la plupart des habitués de la croisette et d'une cinéphilie bien classique, Almodovar, Dardenne, Loach, Malick. à voir si ceux qui rejoignent depuis quelques années cette liste-là répondent à des logiques identitaires, voire même de quotas, plus ou moins assumés. Une chose est sûre, dès la liste publiée, la première chose qu'ont observé les habituels commentateurs est le nombre croissant de femmes réalisatrices en compétition. Thierry Frémaux a, lui, qualifié la sélection 2019 de romantique et politique. Que pensez-vous donc de ce corpus et de ce qu'il représente à l'aune de ces nouveaux enjeux ?
Bon, c'est bien, on a 10 minutes. Ça tombe bien. On Philippe Azoury, qui somatise avant Cannes, il va tout de suite vous répondre.
Si j'arrive encore à parler, j'ai la moitié du visage déformé.
J'ai dit Cannes et du coup, là, il est en train de courir.
Dès qu'on prononce le mot Cannes depuis hier, je sais à peu près, je peux caster pour Elephant Man 2, vous voyez. C'est touchy, comme on dit, mais je sais qu'on n'a plus le droit de dire.
C'est sensible.
On aimerait que le cinéma soit à la fois cruel, joue avec les contraires, sache le faire, et qu'en même temps, il tombe du bon côté du manche. En ce qui concerne la sélection elle-même de Cannes cette année, Lucille le dit bien, on est quasiment à l'abri. Les cinéastes qui ont été sélectionnés ou sont des cinéastes complètement reconnus, Malik, Jarmusch, Almodovar, enfin, les très très grandes maisons défilent. Et à côté de cela, on a même de très très jeunes cinéastes qui viennent avec leur premier film. Je pense au film de Mati Diop, dont on a pu voir dans les différents moyens-métrages ou courts-métrages qu'elle a produits les 7-8 dernières années, qui a réellement cinéaste à cet endroit-là. C'est-à-dire je ne vois pas dans les films qui nous sont proposés, dans les 17, 18 ou 19 films qui sont proposés à l'intérieur de la compétition. Après, le festival est plus large, il englobe quasiment une centaine de films dans toutes ces sélections parallèles. Je ne vois pas quelqu'un qui ne serait que du côté du sujet. Après, ça peut arriver, on va voir les films. On est là pour les voir et on est là pour juger. Mais c'est vrai que la tentation du quota, la tentation d'être toujours du côté du bon sentiment, qui vient des États-Unis, mais qui est partout, en fait, aujourd'hui, peut commencer après 2 ans où il y a eu un moment nécessaire de paroles libérées, de remise à niveau, parce qu'on partait aussi structurellement de représentations qui étaient bousillées de l'intérieur par des gens qui s'en servaient mal, qui parlaient à la place des autres, qui foutaient les pieds sur la table où il fallait pas, et c'était gênant, à aujourd'hui, finalement, un dosage qui est tellement parfait qu'on se dit où est la perversité, et qu'elle va finir par nous manquer. On est incorrigible.
Charles Garçon.
Oui, je suis d'accord. C'est délicat parce que effectivement, d'abord, quand on dénonce un cinéma victimaire, il faut quand même d'abord rappeler que les victimes sont des victimes d'actes et de faits. Et donc là, on parle de représentation fictionnelle, de culture. Donc on est toujours dans une forme de décalage. Et c'est quand même bien de rappeler que les victimes sont des victimes de faits aussi. Et puis, bien sûr que la fiction, d'une part la fiction en général, mais aussi la mise en scène de cinéma, n'est jamais meilleure que quand elle maintient ensemble les contraires et l'ambivalence et les... je vais reprendre un exemple de Renoir.
Tiens,
et pourquoi pas de garçon
au hasard.
Pourquoi
pas
Renoir, bien sûr,
personne
ça fait longtemps
n'est parfait,
là aussi.
Personne n'est parfait. et voilà, c'est ça. Mais certains la même chose, c'est ça. Le fleuve, Renoir, il y a un personnage qui a été blessé à la guerre, le capitaine John dans Le fleuve. On se dit, ah bah oui, c'est Renoir qui a été blessé à la guerre. En fait, c'est tout autant Renoir, la petite fille qui va devenir écrivain. Elle a 12 ans et voilà, elle est rousse d'ailleurs comme Renoir. Où c'est tout autant le père de son ami, etc. Donc bien sûr que, en particulier chez Jean Renoir dans French Cancan, c'est pareil, il se projette autant dans Jean Gabin qui a quasiment son âge que dans la petite jeune fille qu'il recrute pour danser. Donc les meilleurs ont bien compris que c'est pas le cinéma et la fiction ne sert pas à instrumentaliser des acteurs pour servir un sujet, et que c'est le contraire, c'est-à-dire qu'il permet au contraire une diffraction du sujet au sens cette fois-ci du sujet cinéaste des personnages, des paysages, etc. Donc on espère, en allant à Cannes, je pense qu'on espère voir des films qui mettent la mise en scène en avant, et c'est souvent quand même le cas. Faut reconnaître à ce festival cela. C'est quand même un festival dans lequel on est à peu près d'accord, toutes sélections confondues, qu'on cherche quelque chose de l'ordre du cinéma. On cherche
de l'ordre de la mise en scène, voilà, en tout cas d'un dialogue entre la mise en scène et...
Bien sûr. Après, il se trouve par exemple que dans la sélection de l'acide, il y a un film de
l'association pour le cinéma indépendant et sa diffusion.
Exactement.
Qui est une sélection qui a pris une importance vraiment très grande au fil des années.
Il y a par exemple un film qui s'appelle Dans l'angle mort de Patrick Mario Bernard et
Pierre Trévidic,
et qui se pose cette question parce qu'il y a le personnage principal est noir et c'est un petit peu fantastique. Il a le bonheur ou le malheur d'être né avec une sorte de don qui est que dans certaines conditions il disparaît, il devient invisible, il s'efface, mais c'est évidemment aussi une forme de malédiction et on peut évidemment y voir
une trace d'invisibilité
Lucille Comeau.
Moi je me demande si le festival de Cannes n'est pas très français en cela que en fait la question communautaire, qui est une question quand même très anglo-saxonne et américaine en particulier, n'est pas tellement en effet la question. En revanche, il y a une question qui est extrêmement sensible et qui s'est posée, on en a parlé avec les Césars, c'est la question de l'inclusion ou l'exclusion, et je pense que c'est un peu lié, de la comédie populaire ou du film dit populaire. Avec l'année dernière, il y avait eu Le Grand Bain. Là, il y a deux films qui sont hors compétition, mais quand même, le film de Nicolas Bedos et le film d'Éric Toledano, qui sont vendus même par le festival comme les grandes comédies populaires enfin projetées sur la croisette. Et je me demande s'il n'y a pas une équivalence entre toute la question communautaire, identitaire à l'américaine et cette question-là qui se joue à un autre niveau. Je pense à un niveau de classe, pour le coup, de question de classe, en France.
Vous voulez dire que le festival nierait son côté élitiste, enfin, c'est malgré tout réservé à
En tout cas, la question sensible se pose à cet endroit-là, je pense. Oui,
Un fantasme d'appartenir tous à cette grande communauté. Bah,
c'est une forme aussi de communautarisme, mais elle se pose au niveau de la question de classe et pas au niveau, de la communauté.
Il y a quand même eu 120 BPM il y a 2 ans qui a été un des plus grands événements du festival de Cannes.
Moi, je récompensé par les Césars, d'ailleurs. Que les films dont vous parlez ne soient plus en film d'ouverture, ce qui était quand même le cas. On a quand même connu des ouvertures avec, je sais pas, ça fanfant la tulipe ou je sais pas quoi. Enfin, c'est chose que c'est réel. Enfin, ça a 15 ans, ces histoires-là. C'est pas si vieux. Enfin, de mémoire de festivaliers. Aujourd'hui, ils sont relégués à des moments un peu forts. Que le festival aujourd'hui un moment intègre 2-3 comédies. Il se trouve que par ailleurs le grand bain est un film qu'on s'est aperçu a posteriori, ou le film de Salvadori à la quinzaine l'an dernier qui avait à peu près le même rôle à des degrés différents. Je suis bien d'accord avec vous, même sur la mise en scène, mais ne laissons pas le territoire de la comédie en dehors du festival, parce que finalement il participe,
et en dehors de Woody Allen qui est le seul représentant
par ailleurs on s'aperçoit aussi que la place de Woody Allen est tellement menacé qu'aujourd'hui, plein de nouveaux Woody Allen vont apparaître.
Il y a des campagnes sauvons Woody Allen en ce moment. Charlotte Garçon.
Alors, est-ce que du coup, vous relieriez ce communautarisme galopant qui est un peu tenu à l'écart du Festival de Cannes, même si on lui en a fait reproche par rapport à la représentativité, notamment des femmes, et une sorte de communautarisme des différents genres?
Non mais c'est intéressant. Mais surtout que là, pour le coup, le film de genre est extrêmment représenté. Ouais. C'est assez frappant.
À mon sens, surreprésenté.
Oui. Ah oui, non mais oui, ça là, on sera pas d'accord. Non, je me demandais aussi si il y avait aussi une forme de, il y a quelque chose d'assez pratique dans ces grands noms qui sont ressortis à chaque fois, c'est que on a Loach, on a les Dardennes, et que du coup, on a une sorte de caution du film concerné qui est en même temps
Ken Loach,
du film. Ben voilà, c'est ce que je dis. Il y a Loach, il y a les Dardennes.
Ah, pardon.
Donc du coup, avec ça, de toute façon, on est bon. C'est-à-dire que on a notre quota.
Brisel n'était pas prêt.
Oui, bah, et en plus, ce sont des films de cinéastes, entre guillemets, donc c'est parfait. On a l'autre chez les Dardennes. On peut se permettre, justement, de faire du film de genre, d'aller dans des directions différentes. Non, on a rempli le quota film politique, entre guillemets, comme
oui, mais
dit,
film politique de cinéastes, c'est ça qui est quand même le plus important, ce qui différencie Cannes du Festival de Berlin, même si Berlin, ça bouge un petit peu. Ouais. Ken Loach a fait et fera peut-être encore de très grands films, comme c'est le cas des frères Dardennes. Cette question-là, elle se pose quand même à Cannes, et je reviens sur ce que vous disiez au départ, par le prisme du cinéma. On attend quand même des cinéastes en activité qui pensent en termes de cinéma, Charlotte Garçon.
Paradoxalement, elle s'est un peu repliée, ce communautarisme, disons cette prime au sujet, film naturaliste, c'est un peu repliée dans une sélection qui s'appelle paradoxalement Un certain regard, et qui parfois, on trouve que le regard, il est incertain.
Je comprends de moins en moins cette sélection.
Alors, d'ailleurs, les films circulent entre les deux. Hein. Le film de Mati Diop, il devait être montré dans la sélection Un certain regard, et finalement, il a été inclus dans la sélection.
En compétition.
Un certain regard, ça a toujours été une sélection qui a...
Bis.
qui servait beaucoup au Festival de Cannes, notamment lorsqu'il fallait faire des deals avec des très très grands producteurs américains, on ne les citera pas de funeste mémoire, Harvey, mais lui ou d'autres, enfin c'est voilà, je te prends tel film,
je te donne Tarantino, te donne mais tu ça, mets ça tu dans un certain toi, regard.
Et, bon. Et au milieu, il y a pareil des jeunes pousses d'une sorte de world cinéma et quelque chose. J'ai quand même l'impression cette année qu'un certain regard, après c'est pareil, il y a tout un tas de noms dont on n'a pas idée de ce qui se cache derrière. On verra sur place comme chaque année. C'est vraiment là-dessus, on est tout totalement vierge avant d'y aller. On croit qu'on sait, mais on sait pas grand-chose. En fait.
Bah, c'est quand même l'intérêt, sinon. J'ai
l'impression que, cette sélection qui a quand même été surnommée une certaine odeur il y a quelques années, aujourd'hui se tient quand même beaucoup mieux. Enfin, que un certain regard a plutôt même servi aujourd'hui à Thierry Frémaux à essayer de doubler la nouvelle quinzaine des réalisateurs avec son sans que c'est ça la nouvelle utilité.
On en reparlera. J'imagine un post-palmarès, donc d'ici 3 semaines pour que ce soit post-palmarès dans cette émission. Avant de conclure cette émission, le jeu de la dispute est Joséphine Dumoulin qui nous a rejoint, qui va d'abord nous rappeler la question du jeu d'hier soir et nous donner sa réponse, Joséphine.
La question était: quel artiste d'origine hongroise rapprocha dès 1933 ses photographies de graffiti parisien des peintures pariétales de la préhistoire? Et la réponse était Brassailles.
Ce soir, on fait gagner des invitations pour le festival Les Langagières du 14 au 25 mai au TNP à Villeurbanne. La question, Joséphine:
qui a fondé le Théâtre National Populaire en 1920?
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Cette émission a été préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pinot et Joséphine Dumoulin. Et pendant que ça installe à côté, dire que la prise de son a été signée Nadège, Antonini, Philippe Mercher et Jean-Benoît Tétu. La réalisation Alexandre Fougeron. Rendez-vous lundi à 19h pour une dispute consacrée au stand-up. Je serai avec vous, Lucille Como, joie. Mais aussi avec Lily Bloom et Philippe Chevillier, autre joie. On parlera de Hexagone, de Farid, de Growing d'Amy Schumer. Il y aura un coup de cœur de Lily Bloom et puis un petit salon. Encore une fois, quelle chance consacrée justement au stand-up qui traverse les frontières.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture présente Fauve, écrit et mis en scène par Wajdi Mouawad. Hippolyte, la cinquantaine, peine à achever le montage de son dernier film. Quel sera l'effet d'un appel téléphonique sur le cours de sa vie? Au cœur de la sauvagerie archaïque qui nous habite, des fauves cachés, insoupçonnés, nous obligent parfois à affronter nos silences, nos terreurs et nos hontes. Comment de l'amour et de la bonne éducation peuvent naître les violences les plus aveugles? Fauve, jusqu'au 21 juin, à la Colline, Théâtre National, à Paris. Un partenariat France Culture.
Et Fauve, on en parle le 4 juin dans la dispute.